Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le directeur de cabinet du chef de l'État, placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis hier mercredi, Vital Kamerhe, a été entendu à l'office du procureur général près la cour d'appel de Matete dans le cadre des enquêtes sur l'exécution du programme d'urgence du chef de l'État. Il a été conduit hier soir à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Comment analyser cette action de la justice congolaise? C'est l'objet du débat dès ce soir. Et dans cette émission, nous recevons Maître Charles Mushizi. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Bonsoir Maître Charles Mushizi.
Bonjour.
Apparemment, il n'est pas encore là.
Bonsoir, okay. Je suis bien.
Bonsoir Maître Charles Mushizi.
Bonsoir.
Maître Georges Kapiamba, avocat et président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, AKJ en sigle. Bonsoir, Maître Georges Kapiamba. Lui n'est pas encore là. Et professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Oui, bonsoir, monsieur Guimaté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vital Kamerhe est placé sous mandat d'arrêt provisoire. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi a été conduit à la prison de Makala mercredi soir. Il a été entendu à l'office du procureur général près la cour d'appel de Matete dans le cadre des enquêtes sur l'exécution du programme d'urgence du chef de l'État. Le parquet cherchait à obtenir de lui les renseignements sur son rôle dans la passation du marché, la procédure, les décaissements des fonds affectés aux travaux des sceaux de moutons et des logements sociaux. Reportage de Jeff Fongoy, rendu par Alain Irongo.
C'est vers 13h que Vital Kamerhe fait son entrée au parquet. L'avocat général Sylvain Kimwala, qui instruit le dossier, le reçoit pour le verbaliser. L'audition a pris fin vers 17h40. Mais le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi n'est pas autorisé à quitter le parquet. Il lui est signifié son arrestation provisoire. Selon les sources du parquet, un directeur de cabinet est un personnel administratif, donc un justiciable comme tout le monde. Il ne jouit donc pas de privilèges liés à sa fonction. Vital Kamerhe pourrait être jugé soit par un tribunal de grande instance, soit par la cour d'appel. Il encourt 20 ans de prison s'il est définitivement reconnu coupable lors d'un éventuel procès.
Merci à vous Alain Irung, Maître Charles Mushizi, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par cette décision qui consiste à placer sous mandat d'arrêt provisoire Monsieur Vital Kamerhe, ou vous vous attendiez à cette décision?
À vrai dire, personne ne pouvait s'attendre à cette décision pour des raisons simples. D'abord, sur le plan purement procédural, il s'agit plutôt d'une invitation, donc une manière courtoise pour une autorité judiciaire d'appeler à discuter, à échanger avec un justiciable. Et donc, a priori, il ne s'agissait pas d'un mandat de comparution, par exemple, lancé dans le cadre d'un dossier RMP. Tout était à laisser croire qu'il s'agissait peut-être d'un dossier ouvert sous forme de réquisition d'informations, au cours de laquelle le magistrat tirerait peut-être petit à petit sa conviction avant de transformer le dossier en registre de ministère public, en RMP. Et donc, du coup, ça a été une sorte de piège, et ce n'est pas très élégant de la part de la justice plutôt de jouer à ce jeu-là, parce que de toute façon la justice n'a pas à négocier son pouvoir. La justice était tout à fait dans son droit d'émettre un mandat de comparution pour que la personne sache déjà que les choses sont aussi graves que ça, et peut-être que puisse se préparer psychologiquement. Parce qu'il y a des personnes, surtout d'un certain âge, qui, en apprenant une décision aussi lourde que celle-là, peut piquer une crise et mourir. Donc, à mon avis, ça a manqué un peu d'élégance de ce côté, sur le plan purement procédural.
Maître Charles, donc, vous dites qu'il s'agissait d'une simple invitation, parce qu'il n'y avait pas de mandat de comparution. Et donc, vous pensez qu'à ce stade, il y a vice de procédure?
Non, il n'y a pas vice de procédure, parce que même en cas d'invitation simple, sur base des faits, sur base de l'enquête du magistrat, ce dernier peut apprécier si oui ou non les faits sont graves, si les informations qu'il a sur l'affaire sont telles que les charges de culpabilité sont fortes et qu'elles pèsent effectivement sur la personne auditionnée. Donc moi je parle juste d'une certaine élégance que la justice aurait pu user pour mettre la personne déjà dans une situation de confiance, ou lui dire à peu près à la gravité à, qui était autour des faits qu'il alléguait. La justice a fait comme dans une sorte de malice, l'inviter à un échange alors que il était déjà décidé à, et c'est là plutôt qu'il y a une sorte de manipulation cachée, en tout cas à dire vrai, d'expérience d'avocat, j'ai jamais vu quelqu'un être arrêté sur base d'une simple invitation. Ça fait quand même pas mal d'années que je travaille dans cette profession, je sais que de pratique judiciaire, une invitation ne se fait émettre que dans le cas d'une réquisition d'information et pas dans un dossier qui est déjà RMP.
Alors, comment vous analysez cette action de la justice congolaise? Est-ce que vous pensez que les gens qui l'ont, n'est-ce pas, interviewé, les gens qui l'ont entendu, sont convaincus qu'il y a des soupçons, après l'avoir entendu, des soupçons de détournement des fonds? C'est pourquoi ils ont pris la décision de les mettre sous mandat d'arrêt provisoire?
Je ne prendrai pas le risque de dire oui ou non, parce que je ne sais pas quels sont les documents qui sont en possession de la justice. Quels étaient les rapports qu'ils avaient? Est-ce qu'ils avaient des preuves de traçabilité de certaines malversations ou de certaines acquisitions qui ne sont pas permises par la loi? Ça, je ne le sais pas. Mais toujours est-il que ça a manqué d'élégance, parce que si vous lisez l'ordonnance qui organise les modalités de collaboration du chef de l'État avec les membres du gouvernement, etc., etc., où on peut trouver des dispositions relatives aux privilèges dont jouissent un certain nombre de membres du cabinet du chef de l'État, vous comprenez très bien qu'il y avait une autre manière de gérer. Et cette brutalité de la justice n'est pas de nature n'a pas respecté les principes qui sont de mise en matière d'arrestation des personnalités qui jouissent d'un certain nombre de privilèges. En fait, il faut rappeler que lorsque la loi crée un système d'équivalence, de privilèges, d'équivalence entre une position et une autre, elle veut simplement faire en sorte que la personne bénéficiant de cette équivalence puisse aussi accéder aux avantages qui sont attachés à ces positionnements. Et il en va de soi, par exemple, en cas de corps constitué, que le directeur du chef de l'État vienne, par exemple, en ordre utile par rapport à un directeur de l'administration publique ou par rapport à un bourgmestre. Et donc, je crois que fondamentalement, la justice a manqué d'élégance et elle est au point de se faire soupçonner, à mon avis.
Alors, la justice estime qu'il est un administratif et donc il est justiciable comme tout le monde.
Je suis tout à fait d'accord que, en tant que citoyen congolais, il soit justiciable devant les instances judiciaires. Ça, c'est une niaiserie, c'est une affirmation niaise. Mais il y a un moyen de traiter, et ça, c'est de la loi aussi, de traiter des personnes qui jouissent d'un certain nombre de privilèges. C'est un administratif au cabinet du chef de l'État où il est directeur de cabinet. Et son poste est équivalent à celui bénéficie des avantages et de traitements du ministre d'État. Alors, on ne peut pas prendre un ministre d'État, l'entendre du coup pendant quelques temps dans un parquet et l'envoyer à Makala. Ça ne se conçoit pas. Ça manque un minimum des privilèges d'élégance.
Maître Mouchizi,
les privilèges ne sont pas attachés, ne sont pas individuels, ce sont les privilèges appartiennent à l'État et c'est l'État qui les concède et qui les attribue à quelqu'un par rapport aux charges, aux responsabilités qui sont les siennes dans la gestion de la chose publique.
Maître Charles Mouchizi, son parti politique, l'UNC, s'est dit indigné, n'est-ce pas, de la façon dont il a été traité. Et l'UNC met en évidence son statut. Il est ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement directeur des cabinets du chef de l'État. Et donc, selon l'UNC, sa fuite n'était pas à craindre, et surtout que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de charges, n'est-ce pas, qui sont retenues contre lui. Et donc, on aurait pu le laisser comparaître en homme libre devant les instances judiciaires. Apparemment, c'est votre point de vue aussi.
Je tendrais à confirmer que telle devait être l'appréciation du parquet, parce que le parquet s'est comporté beaucoup plus avec brutalité à l'égard de ce citoyen, parce que lorsque vous lisez les dispositions de l'article 27 du Code de procédure pénale, qui établit les conditions pour lesquelles les magistrats peuvent mettre en détention préventive, c'est que lorsque l'identité n'est pas connue ou qu'elle est douteuse, c'est que lorsque il y a crainte de fuite et lorsque les charges qui pèsent sur l'inculpé sont tellement sérieuses qu'il faut le garder. Quoi qu'il en soit, on n'en est qu'à une première audition. J'imagine que la justice, et ça je l'ai dit, a encore un certain nombre de documents sur base desquels elle a apprécié qu'il y a des charges sérieuses de culpabilité. Mais une fois encore, du moment que l'identité ne pose aucun problème, du moment qu'il n'y a aucune possibilité de fuite, toutes les frontières sont fermées, et du moment qu'il s'agit d'une personne, d'une personnalité même, qui devait bénéficier des privilèges liés au rang de la fonction qu'il occupe et qui sont celles du ministre d'État, sincèrement, c'est cette brutalité de la justice, cette brutalité de la magistrature est très, très discutable.
Mais aussi, vu son statut, on peut aussi craindre qu'il tente, n'est-ce pas, d'influencer les cours des enquêtes, n'est-ce pas?
Ça, je ne sais pas. Ce serait plutôt un procès d'intention dans lequel je ne vais pas me lancer. Mais par contre, si vous prenez les dispositions du décret de 344 qui organise le régime de détention en République démocratique du Congo, vous le lisez de manière combinée avec les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, vous en déduirez qu'il y a un régime de détention qui est spécifique à certaines personnes qui bénéficient de ce genre de privilèges. Et donc, une mise en résidence surveillée aurait été suffisante.
Merci, maître. On va vous redonner la parole. Maître Georges Kapiamba, vous êtes aussi avocat et président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Comment vous réagissez à cette mise en détention provisoire de M. Vital Kamerhe? Voilà, il n'est pas encore là. Nous allons passer. Il n'est pas encore là. Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Avec vous, nous allons essayer d'évoquer la dimension politique, n'est-ce pas, de cette question. Mais d'abord, comment vous analysez cette décision sur le plan juridique?
Oui, donc ici, il faut d'abord souligner quand même un fait assez important, c'est-à-dire que il s'agit quand même ici d'un fait politique majeur dans l'histoire donc du Congo. C'est que lorsqu'on regarde l'histoire du Congo, jamais en fait un directeur de cabinet, le chef de l'État, n'avait jamais été mis sous examen, voire même sous mandat d'arrêt provisoire. Et donc c'est vraiment une grande première. J'essaie d'analyser un peu toute l'histoire du pays depuis 1960. On n'a jamais eu un cas de la sorte. Et donc c'est vraiment pour moi un fait majeur et qui, à mon avis, restera, je crois, dans les annales de l'histoire du pays. Et ça étant dit, je ne connais pas, je ne veux pas dire que je connais l'affaire de A à Z, que j'ai eu accès au dossier, donc je ne peux pas me prononcer sur le fond du fait que je ne connais pas, mais que je n'ai lu que ce qui a été rapporté par la presse et ce qui a été aussi commenté par les uns et les autres, notamment les ONG, mais aussi l'ensemble des ONG, mais aussi les avocats et d'autres personnalités qui sont plus proches du dossier.
Voilà, donc vous dites que c'est une grande première, n'est-ce pas, dans l'histoire de la RDC. Prenons maintenant la dimension politique de l'affaire. Hein. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, à travers cette action qui consiste à les placer sous mandat d'arrêt provisoire, ce n'est pas l'institution président de la République qui est éclaboussée.
Oui, alors il y a vraiment plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions qui doivent être prises en compte. Il y a d'abord, premièrement, il y a la dimension politique au niveau des accords des uns et des autres par rapport à la dynamique générale qui a été mise en place après les élections de 2018. Et donc, de manière claire, il y a deux pôles. Il y a le pôle FCC et il y a le pôle cash. Et le pôle cash est constitué de deux piliers qui sont donc l'UDPS et l'UNC. Et il se fait que du côté de l'UNC, il y a effectivement le leader d'un des partis qui fait partie de la coalition et qui est donc mis aux arrêts de manière provisoire. Ça a un impact clair dans la dynamique au niveau de cash, c'est-à-dire la partie qui est en coalition avec le FCC. Et donc il y a manifestement un effet politique majeur au niveau donc de cash, et cela va occasionner un certain affaiblissement donc au niveau de cash par rapport à FCC. Alors lorsqu'on regarde effectivement depuis que ces affaires ont commencé, depuis que le dossier de 100 jours, des chantiers de 100 jours a commencé, la pression effectivement que l'essentiel des attaques, l'essentiel du poids est supporté par du niveau simplement au niveau de cash, ce qui politiquement affaiblit de manière très claire cash par rapport à la dynamique FCC. Et dans cette dynamique-là, il va de soi que la présidence va se retrouver affaiblie de manière générale, politiquement, je veux dire.
Voilà, ça c'est au niveau, n'est-ce pas, de la plateforme cash. Et les conséquences de cette action sur les microcosmes politiques de la RDC, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des alliances qui puissent se constituer de nouveau?
Je ne pense pas. Je pense qu'il ne va pas dans l'intérêt de l'UDPS de pouvoir mettre fin à sa coalition avec l'UNC. Parce que si l'UDPS essaye de lâcher l'UNC, cela va affaiblir encore beaucoup plus l'UDPS par rapport au FCC. Uniquement quand vous regardez les rapports de force qu'il y a et au niveau provincial et au niveau de l'État central, vous allez remarquer de manière claire que c'est le FCC qui a l'essentiel du pouvoir. Mais si maintenant cet essentiel du pouvoir était un peu contrebalancé du fait qu'il y avait quand même une coalition UDPS et UNC, et que s'il n'y a plus UNC, il n'y a plus que UDPS face au FCC, vous en conviendrez que il y aura un rapport de force qui va aller beaucoup plus encore du côté du FCC que du côté de l'UDPS dans ce contexte-là. Or, si l'on regarde aussi l'architecture institutionnelle du pays, je ne pense pas que l'UDPS va pouvoir aller dans ce sens-là. Va peut-être essayer de consolider l'alliance, va essayer de rééquilibrer et de renforcer peut-être le pôle UNC par d'autres mécanismes, pour uniquement dans l'objectif de garder l'UNC comme force qui va aider l'UDPS à pouvoir contrebalancer et à pouvoir jouer les équilibristes avec le FCC. Ça va être vraiment un point, je pense, très capital et très important pour les jours et voire même les semaines qui vont suivre. Et le premier indicateur que l'on aura, ce sera certainement le remplacement, j'imagine, de Vital Kamerhe comme bientôt de cabinet du chef de l'État. Parce que sous d'autres yeux, lorsque l'on a effectivement quelqu'un qui est mis aux arrêts, généralement, la plupart des hommes politiques, ils présentent leur démission pour pouvoir se consacrer pleinement à leur défense, ou bien ils remettent leur mandat. Si c'est un mandat qu'ils ont eu à partir du parti politique, ils remettent le mandat au niveau du parti, et le parti recherche quelqu'un d'autre pour remplacer le poste qui était occupé. Je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là que ça doit aller. Donc on aura le premier indicateur, ça sera effectivement de voir pour la désignation de celui ou celle qui pourrait remplacer Vital Kamerhe comme directeur de cabinet.
Oui, professeur Bokabamba, que répondez-vous à ceux qui disent que l'enjeu principal dans cette affaire, c'est la présidentielle de 2023?
Vous savez que quand on, là, de manière très claire, on ne peut pas ne pas empêcher d'avoir des lectures politiques. Ça, c'est tout à fait clair. On ne peut pas ne pas empêcher d'avoir des lectures politiques. C'est des jeux habituels que l'on connaît entre politiciens. On a connu ça en 2018, justement, souvenez-vous, toutes les candidatures qui ont été récalées au présidentiel. Pensez par exemple à la candidature de Jean-Pierre Bemba, qui avait été annulée, par rapport à d'autres candidatures aussi qui avaient été jugées irrécevables par la CENI. En fait, ce sont des jeux habituels entre politiciens et aussi entre politiciens par rapport à la conquête du pouvoir. Si cet élément est exploité dans ce sens-là, oui, ça peut être interprété que c'est une façon de pouvoir anticiper 2023, Mais 2023, ça ne veut pas dire non plus que c'était garanti que Vital Kamerhe allait gagner les élections de 2023, parce que j'imagine que du côté FCC, ils allaient aussi avoir un candidat. J'imagine que du côté aussi la Moukass, même s'ils sont, qu'ils sont quatre plateformes, ils peuvent aussi avoir des candidats qui vont concourir aussi en 2023. Donc ce n'était pas non plus une garantie pour Vital Kamerhe de dire que si il allait être candidat, il allait certainement gagner ces élections. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette interprétation, parce que tout simplement ça fait partie de la politique et ça fait partie du jeu politique.
Il est souvent dit que dans ce genre d'affaires, on est jamais seul, hein? On ne bouffe pas seul. Est-ce que Vital Kamerhe n'est pas un simple bouc émissaire?
Oui, alors là, quand on regarde je ne peux pas entrer vraiment dans le dossier pour savoir, parce que je ne connais pas, mais quand on regarde effectivement le fonctionnement, on va dire général, hein, des institutions au Congo, lorsqu'on lit beaucoup de rapports qui sont sortis, il y a des rapports, il y a de la Banque mondiale, de la BAD, Transparency International, des ONG, qui expliquent un petit peu le mécanisme qu'on appelle les effets-retours, qu'on appelle les échelons, il y a plusieurs sortes de systèmes qui existent. Ça veut dire que lorsque l'on a dans un système de corruption, le chef prend et puis est réparti tout le long jusqu'au plus petit. C'est l'échelon qu'on appelle ça dans certains rapports. Et si on fait la transposition par rapport à ces théories et par rapport au cas d'espèce, bah, bien sûr, on va dire oui, il n'a pas mangé seul, il a mangé avec d'autres. Et ça, c'est simplement que ça va être interprété de cette façon-là. Je pense que ce sera à la justice de pouvoir arriver à démontrer si effectivement il y a eu, d'abord s'il y a eu détournement, s'il y a eu détournement, qui en a profité, qui ont été les bénéficiaires. On peut espérer que la justice va arriver jusqu'au bout.
Merci.
Et à ce moment-là, on pourra soit valider ou invalider l'hypothèse de l'échelon.
Merci, Maître Georges Kapiamba. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes avocat et président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ en sigle. Comment oui. Réagissez à cette mise en détention provisoire de M. Vital Kamerhe?
Alors, nous avons d'abord noté que le fait que, avant que M. Vital Kamerhe ne se retrouve au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, il avait été invité pour la première fois. Je crois que c'était pour qu'il se présente le 6 avril. Une invitation datant du 4 avait été déposée au Palais de la Nation, là où il travaille, et que le 6, il ne s'était pas présenté. La veille de la date de sa comparution prévue dans la première invitation, on a suivi des prises de position politique, allant jusque même à considérer déjà que l'action judiciaire qui était en cours était à caractère politique, et qu'il ne fallait pas s'y fier, son parti s'engageait à ne pas y collaborer. Et puis le 6, il ne s'est pas présenté par la suite. Le 7, le parquet a renvoyé une autre invitation, mais qu'il y a quand même un élément important qu'il faut mentionner sur les deux invitations pour ceux qui avaient fait très attention. Vous allez constater que sur la première, sauf erreur de ma part, sur la première, il n'était pas mentionné les numéros RMP du dossier. Par contre, sur la deuxième, les numéros du dossier RMP, c'est-à-dire les dossiers pénals ouverts, dans le cadre duquel son audition ou sa communication devait se faire, était repris sur la deuxième invitation, et que la première était signée par un magistrat, soit un avocat général. Par contre, la deuxième a été signée par le procureur général, donc le chef de l'office du parquet près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Donc,
vous êtes avocat, maître Kapiamba, comment vous expliquez tout ça?
Alors, cette différence tout à fait entre, normal, entre les deux, tout à fait deux normal, lettres. En fait, notre cette analyse nous permet de déduire tout simplement qu'au niveau du parquet de Matete, toutes les précautions avaient été prises pour satisfaire au respect des garanties qui sont reconnues à toute personne qui est censée être appelée en justice, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement les droits de la défense. Donc, il lui avait été donné la possibilité de prendre le temps d'organiser, de s'organiser, pour être accompagné éventuellement avec les conseils de son chef, surtout lorsque, même s'il s'agit d'une invitation qu'on vous envoie et qu'elle porte les numéros du dossier pénal, c'est déjà un élément qui est censé vous alerter, vous avertir sur la nécessité de vous faire accompagner des conseils de votre choix.
Alors, lorsqu'il n'y a pas de mandat de comparution,
les droits de la défense ont été respectés.
Lorsqu'il n'y a pas de mandat de comparution, c'est une simple invitation. Vous avez suivi Maître Mouchizi qui estime que on aurait dû, n'est-ce pas, lui envoyer un mandat de comparution, comme ça on les préparerait à ce qui est arrivé, quoi.
Non, je crois qu'il est important qu'on fasse une nuance à ce niveau-là. Il y a trois procédés en droit de procédure pénale congolais qui permettent de pouvoir faire comparaître quelqu'un devant un magistrat et parquet lorsqu'il l'instruit. Il y a l'invitation, qui est écrite invitation, qui peut être écrite ou verbale suivant les pratiques qui se sont développées, compte tenu du rang de la personne à inviter. Il arrive généralement des fois que les chefs d'office ou les magistrats instructeurs puissent, pour le respect dû à la personne, l'appeler, mais par téléphone. De deux, il y a le mandat de comparution. Lorsque la personne ne comparaît pas, on peut émettre directement un mandat d'amener. Et puis, on sait tous qu'en procédure pénale congolais, il n'est pas exclu qu'avant d'avoir envoyé l'invitation ou le mandat, lorsque les procureurs ou les magistrats instructeurs estiment, en fonction des éléments qui se trouvent dans son dossier, qu'il y a soit risque que la personne puisse se soustraire des poursuites parce que il y a tel ou tel élément, si la personne apprend, ça risquerait de le faire douter de sa culpabilité, il peut directement établir un mandat d'amener. Donc ce sont des procédés qui sont à sa disposition. Et donc, il ne lui est pas imposé tout simplement d'établir un mandat d'amener et que de manière à déjà alerter la personne qu'une fois que vous serez auditionné, vous pourrez éventuellement être mis en détention préventive. Donc, de par mon expérience et l'analyse que nous avons, je crois que l'invitation telle qu'elle était formulée, libellée, donnait suffisamment d'éléments qui pouvaient alerter sur le fait qu'il allait recevoir une communication avec l'éventualité d'être auditionné. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il s'y était présenté accompagné de ses avocats. Donc, nous, les droits de la défense n'ont pas souffert à ce niveau-là. Alors, par la suite, vous avez posé la question, mais est-ce que c'était normal qu'immédiatement après la première audition, qu'il soit mis sous mandat d'arrêt provisoire? Et là, j'insiste encore pour dire que le législateur congolais n'a pas interdit le magistrat de pouvoir mettre quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire à la suite ou à l'issue de la première audition. Parce que c'est lui qui apprécie souverainement des éléments qu'il a déjà dans les dossiers et au vu même de la manière dont la personne qui a comparu a collaboré avec les magistrats. Et il faudrait aussi mentionner un élément, c'est que avant que lui n'ait reçu cette invitation, les gens doivent savoir que cette enquête a commencé il y a plus de mois. Ça veut dire que le parquet a eu le temps de faire des enquêtes en dehors de lui, de faire ses différents recoupements, d'entendre d'autres personnes, sûrement recueillir tous les autres éléments qui pouvaient, à la suite de son audition, considérer carrément qu'il y avait d'indices sérieux de culpabilité et décider de le mettre en détention pour s'assurer qu'il pourra réellement se présenter chaque fois qu'il en aura besoin. Et je termine par dire qu'il ne faut pas aussi minimiser le fait que le jour qu'il s'est présenté, c'est-à-dire le 9, le fait qu'il se soit accompagné d'une foule importante, et surtout que nous sommes pendant une période d'un état d'urgence sanitaire, et joué négativement à sa faveur. Parce que déjà là, le fait que ces gens se soient attroupés devant les parquets, ça peut avoir fait douter les procureurs ou les magistrats sur l'éventualité en ce qu'ils puissent se présenter à la prochaine invitation.
Voilà, directeur de cabinet du chef de l'État, il a une adresse connue, il a toute une famille ici au pays. Pourquoi ne pas les laisser comparaître librement comme les suggère son parti politique, l'UNC, quand on sait qu'il ne pouvait pas fuir, n'est-ce pas?
Alors, je crois que l'un des intervenants, l'un des co-débatteurs a évoqué déjà, je crois, c'est Maître Mouchiz qui a évoqué l'article 27 du Code de procédure pénale, lorsqu'il a lu les motifs qui peuvent conduire les magistrats instructeurs à décider de la mise en détention. Il a cité trois choses. Il faut que la fuite, qu'il y ait crainte de, que la personne puisse fuir, que la personne n'ait pas d'adresse certaine ou que les faits sont graves. Et il faut aussi mentionner que ces conditions-là ne sont pas cumulatives. C'est lui, le magistrat, qui, au regard de cette énumération prévue déjà par la loi, peut vérifier par rapport notamment au comportement antérieur et pendant l'audition de la personne, considérer si oui ou non une de ces conditions est établie et que par conséquent, il peut les mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Voilà.
Merci. Merci, Maître Charles Mouchizi. Vous allez réagir à ces commentaires qui viennent de Mboujimaï.
Monsieur Jean-Claude à Mboujimaï, la justice doit être libre sans subir une quelconque pression. Elle ne doit pas être politisée, parce que si elle est politisée, elle ne doit pas résoudre le problème et agir mieux. Mais il faut que la justice fasse de même pour tout le monde qui ont des dossiers de ce genre. Sinon, elle ne sera pas une justice responsable.
Maître Charles Mouchizi.
Tout d'abord, plutôt pour des raisons pédagogiques, parce que nous avons des auditeurs qui nous suivent et il ne serait pas souhaitable peut-être qu'il persiste une erreur dans nos échanges. Pour des raisons purement scientifiques, je voudrais rappeler qu'en aucun cas, puisque le droit pénal il est de stricte interprétation, qu'en aucun cas pour un dossier du ministère qui relève du régime du registre du ministère public, le RMP, le ministère public peut décerner une invitation. En aucun cas. Lorsque vous lisez l'article 15 du code de procédure pénale, il est clair, le ministère public ne fait comparaître devant lui le justiciable dans le cadre d'un RMP que par un mandat de comparution, à défaut d'y déférer. Le mandat d'amener. Ça, c'est l'article 15 du Code de procédure pénale et il ne faut pas s'y méprendre. Et je comprends tout à fait les préoccupations du collègue défenseur des droits de l'homme qui a beaucoup insisté sur les droits de la défense et ça, c'est fondamental. Mais quand je parlais tout de suite, j'ai plutôt relevé le manque d'élégance de la justice à savoir traiter un certain nombre de personnes qui jouissent d'un certain, qui bénéficient d'un certain nombre de privilèges à cause de la fonction qu'elles exercent.
Alors, si vous répondez à cette préoccupation de l'auditeur de Mboujimaï.
Oui, je vais y venir tout de suite. Lorsque vous lisez l'article 28 du Code de procédure pénale, il dit clairement que la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Ça veut dire que vraiment la justice avait toute la latitude de respecter une personnalité ou en tout cas de ne pas la mettre devant une situation d'humiliation, une personne humaine restant sacrée aussi dans le cadre de sa dignité. Et donc vraiment ça manque d'élégance pour une justice qui semble faire une course à laquelle elle n'est même pas obligée. Alors, je suis tout, et c'est justement là ma réponse par rapport à l'auditeur de Mboujimaï qui insiste à ce que la justice soit indépendante. Mais comment peut-on croire en une justice indépendante lorsque on constate que ces mesures sont plutôt actives, sont plutôt du genre à faire mal, sont plutôt du type à ne pas donner de la valeur humaine, de la dignité, à donner de la valeur à la dignité humaine, surtout lorsqu'il s'agit des personnes qui exercent un certain nombre de fonctions. Et il n'y a aucune crainte à ce que Monsieur Vital Kamerhe vienne se présenter chaque fois que le ministère public aura besoin de lui, jusqu'à sa condamnation en ce moment-là.
Merci.
Et il ne peut plus rester en résidence surveillée, il va peut-être aller purger sa peine à Makala. Mais dans un premier temps, il est question plutôt d'être élégant et de considérer la dignité de personne.
Merci, maître.
De la loi aussi.
Merci, professeur Bob Kabamba. Vous allez aussi réagir à cette réflexion.
Moi, c'est André Katumbo depuis la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Personnellement, je pense que la détention de M. Kamerhe est une grande décision de haute portée. Malheureusement, il pourra y avoir des impacts négatifs sur le plan politique, car malgré que la justice l'a fait dans le cadre de ses prérogatives, mais notre pays est géré selon les accords obscurs.
Oui, professeur Bob Kabamba.
Merci pour la question. Effectivement, il va y avoir beaucoup d'impact. Avant l'arrestation donc, de Vital Kamerhe, ne sera plus pareil après l'arrestation. Il va y avoir des impacts négatifs, notamment par rapport à la dynamique, d'abord à la dynamique au niveau de la présidence, où certainement qu'il va y avoir quelques règlements de compte entre différents clans et groupes qui sont autour du président. Certainement qu'il y aura aussi des impacts au niveau de du fonctionnement même du gouvernement, du fait qu'il y a des membres de l'UNC qui sont dans ce gouvernement. Impact aussi au niveau même des provinces, puisque il y a dans un certain nombre de provinces des responsables de l'UNC qui gèrent. Et ces impacts-là vont avoir un effet de manière globale sur la gouvernabilité du pays. En plus, ce problème revient en pleine crise de coronavirus, ce qui va encore beaucoup plus accentuer une espèce de léthargie et d'immobilisme que l'on va constater dans les prochaines semaines, qui risque d'être fatal pour le Congo de manière générale. Puisqu'il y a encore beaucoup d'enjeux, il y a encore beaucoup de défis qui doivent être relevés, et le Congo n'avait pas besoin d'une telle crise à ce moment de son évolution.
Alors, professeur, comment vous entrevoyez la suite de ce dossier? Quels sont les scénarios possibles? Vital Kamerhe est libéré sans jugement? Vital Kamerhe est jugé et condamné? Ou Vital Kamerhe est jugé et acquitté? C'est quoi les scénarios possibles à votre avis?
Le scénario, moi, je vais plutôt me focaliser sur les aspects politiques. Hein. Le scénario politique, le scénario qui saute aux yeux, ça va être d'une part, de manière claire, je pense, le remplacement de Vital Kamerhe au poste de président. Et si il s'agit de quelqu'un de l'UNC qui reprend ce poste-là, ça veut dire que Félix Tshisekedi reste bien dans le cadre des accords de Nairobi entre l'UDPS et l'UNC. Si ce n'est pas le cas, si c'était fixe quelqu'un d'autre qui n'est pas de l'UNC, ça veut dire que l'on sort des accords de Nairobi. On pourrait dire à ce moment-là que les accords de Nairobi n'existent plus. Et il dépendra à ce moment-là de l'UNC de savoir est-ce qu'ils vont rester dans la dynamique gouvernementale avec FCC et CASH, oui ou non. Ça dépendra maintenant de l'UNC à pouvoir prendre cette décision. Et donc et ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, et aussi, il y aura des répercussions entre les relations entre le FCC et CASH. Certainement qu'il y aura des répercussions entre ces deux-là. Le fait qu'il va y avoir, comme je l'ai expliqué, l'affaiblissement du côté de CASH, ça va avoir des répercussions du fait que le FCC va se retrouver beaucoup plus en position de force, surtout qu'il y a pour l'instant des négociations au niveau de la répartition des postes, au niveau des établissements publics, au niveau de la diplomatie. Et dans cette stratégie-là, je pense que le FCC va avoir une longueur d'avance par rapport à CASH. Et bien, n'oublions pas aussi que dans cette dynamique aussi, ça va aussi à valider beaucoup plus les thèses et les positions de l'opposition. Quand je parle de l'opposition, je vois la Mouka avec Fayulu, Mouzito, Bemba et Katumbi qui vont se retrouver un peu plus renforcés dans leur position d'opposition face à ce qui est en train de se passer. Merci. Voilà en gros ce que l'on peut faire comme scénario de manière claire dans les prochaines semaines qui vont être vraiment capitales dans les prochaines semaines pour la RDC en tout cas.
Merci Maître Georges Kapiamba, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Lubumbashi.
René Moïse de Lubumbashi. Je pense que les accords FCC CASH ont pris le pays en otage. Ce qui fait que même les passations de marché et les appels d'offres ne se font que dans leurs accords-là. C'est pour cela, moi, j'ai des doutes par rapport à la finalisation de ce dossier. Je pense que M. Vital Kamerhe sera libéré et le dossier sera clos. La justice commence avec une grande ampleur, mais la finalité, la fin, on va nous l'innocenter et puis ce sera terminé.
Maître Georges Kapiamba.
Oui, merci. Bon, je voudrais d'abord placer un petit mot. Hein. J'ai dit il n'est pas aussi que de faire un reproche au parquet de Matete d'avoir manqué d'élégance tout en considérant qu'il avait fait la.
Maître Georges, est-ce qu'il y a moyen de bouger, hein? La ligne pose problème, mais votre ligne pose problème. Essayez de bouger un peu. Ah,
alors, je disais qu'il me semble être aussi pas compréhensible qu'on puisse à la fois reprocher au parquet d'avoir manqué à l'élégance par rapport à une personnalité qui pourtant a reçu une invitation et qui puis on dit qu'il aurait fallu qu'on lui envoie un mandat pour qu'il soit préparé au préalable que à l'issue de l'audition qu'éventuellement une pareille de décision de mise en détention préventive ou provisoire pouvait s'en suivre. Je crois que c'est vraiment contradictoire. Ce que le parquet a fait, je trouve que c'est conforme à la procédure en vigueur, mais aussi aux us et coutumes qui sont d'application depuis plusieurs années devant les offices en République démocratique du Congo.
Voilà, maintenant par rapport à la préoccupation de l'auditeur de Lubumbashi.
Alors, par rapport à la question de l'auditeur, c'est vrai que c'est une question qui comporte deux sous-questions. Il voudrait, et il pense que le pays ne doit pas être pris en otage par des accords politiques, et là nous sommes d'accord avec lui, parce qu'en fait, notre pays doit être considéré comme un pays qui est régi par une constitution et pas par des accords. Et nous avons une constitution qui, dans son préambule, selon la volonté des Congolais, nous avons tous décidé de construire au cœur de l'Afrique un état de droit. Et l'état de droit, lorsque vous allez à l'article 12 de cette même constitution, il est dit que tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation. Et les obligations, notamment, qui s'imposent à toute personne qui est appelée ou invitée par la justice, c'est notamment d'y déférer. Et lorsque vous n'y déférez pas et que vous développez un certain nombre de choses qui sont de nature à faire douter de votre collaboration, je crois que les conséquences peuvent être aussi négatives.
Merci.
Et enfin, je voudrais insister sur un élément, c'est que les exceptions en ce qui concerne ce qu'on appelle les privilèges de poursuites ou de juridictions, doivent être posées par une loi, parce qu'en ce qui concerne ces privilèges, nous en avons à l'article 153 de la Constitution, et puis les articles 80 et les suivants de la loi portant procédure devant la Cour de cassation.
Maître
et
Georges,
lorsque vous voulez savoir si tel est réellement membre du gouvernement, vous vous portez à l'article 90 de la Constitution qui donne les membres du gouvernement qui peuvent être bénéficiaires des privilèges de poursuite ou de juridiction conformément à l'article 80 de la procédure devant la Cour de cassation.
Maître Kapamia, on est à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez conclure? Comment vous entrevoyez la suite de ce dossier?
Alors, ce que moi je voudrais dire en conclusion, c'est que nous avons fait l'observation ou le monitoring de cette procédure. Nous sommes convaincus que les droits de la défense ont été respectés jusqu'à ce niveau, qu'il est plus qu'important que tout le monde respecte la fonction de la justice, se soumette à la loi de la République et qu'on cesse de s'attaquer de manière aussi inacceptable contre les magistrats ou contre cette institution, la justice dont nous avons besoin.
Merci.
Pour la restauration d'un état de droit.
Merci. Maître Charles Mouchizi, comment vous entrevoyez la suite de ce dossier? Ça sera votre conclusion aussi.
Bon, j'apprécie beaucoup l'optimisme de mon co-débatteur, c'est un confrère, un collègue défenseur des droits de l'homme. J'apprécie beaucoup, je voudrais bien que la justice nous rassure tous et qu'elle fasse cette fois l'exception, parce qu'on a bien vu que la plupart de fois, elle a donné plus de la chaleur, elle a produit plus de la chaleur que de la lumière. Et donc j'espère que nous allons assister à une belle instruction et à vous prononcer d'une décision qui va consacrer le droit dans cette affaire.
Merci, professeur Bob Kabamba. Votre conclusion?
Oui, on peut espérer effectivement que la procédure va aller jusqu'au bout et que ça va servir d'exemple pour d'autres cas, pour d'autres détournements qui ont déjà eu lieu dans le pays et qu'on pourra enfin mettre fin à cette impunité que l'on a constatée depuis des années et des années à RDC.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Paul Badianyama qui était à la technique. Merci aussi à Donna Madimba et Kéline Kouté qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite au programme sur Radio Capi.